Bonjour chers auditeurs, j'ai le très grand plaisir de vous présenter aujourd'hui Monsieur l'abbé Philippe Ferré. En réalité, pas besoin de le présenter aux Chartrains et dans le diocèse de Chartres, car il est directeur de la bibliothèque diocésaine et il vous propose aujourd'hui de l'écouter au sujet des évêques de Chartres au XIIe siècle. Bonjour Monsieur l'abbé.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous avoir avec nous dans le studio. Je vous laisserai peut-être tout de suite la parole, car vous avez bien des choses à dire sur deux évêques qui sont trop peu connus des Chartrains, des historiens du XIXe siècle qui les ont délaissés. Parmi ces deux évêques, Yves de Chartres, grand canoniste.
Et grand évêque de Chartres. Oui, j'ai envie de parler des deux premiers évêques du XIIe siècle. Vous savez qu'il a été une grande époque, et notamment à Chartres. Il suffit de regarder le portail royal qui actuellement
va être redécouvert.
Oui. Les échafaudages, le démontage des échafaudages a commencé il y a quelques jours et les vitraux sont en place, je crois, et ça, on va redécouvrir une merveille construite au milieu du XIIe siècle et qui, j'espère l'occasion d'en reparler, est un magnifique reflet de la vitalité de l'école de Chartres à cette époque. Et donc, au début du XIIe siècle, nous avions comme évêque à Chartres Yves, qui a été longtemps évêque de Chartres, puisque de 1090 à 1115.
Alors peut-être pouvons-nous rappeler, pour les auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas dans tous les détails le portail royal de Chartres, c'est la façade occidentale qui a subi en 2011 une grande campagne de restauration. On en a profité pour nettoyer et restaurer les vitraux du XIIe siècle, mondialement connus, et on a posé à l'extérieur le vitrage de protection qui désormais va les protéger contre les intempéries.
Des gros travaux pour cette œuvre exceptionnelle. Et on ne se rend pas compte à Chartres, au fond, assez de cette merveille qu'on a sous les yeux. Une façade qui a été la façade de la cathédrale de Fulbert, quand la façade initiale a été, je crois, détruite par un incendie. Enfin, donc, on a à frais nouveaux édifié deux tours, dont une surmontée d'une flèche irréprochable. Et un portail à 3 baies et 3 vitraux tout à fait exceptionnels pour le XIIe siècle.
Formant une unité cohérente,
une
trilogie.
Tout à fait cohérente. Enfin,
l'arbre de Jessé qui annonce la venue du Christ, les rois de Juda, David, Salomon, la vie du Christ public qui démontre que les Écritures ont dit la vérité et puis la passion du Christ.
On a vraiment un ensemble, mais il faut des journées pour le visiter. Alors les Chartrains ont été privés, les visiteurs venus de partout ont été privés là, pendant quelques années d'un abord.
Oui, mais en réalité, ils vont tous revenir, redécouvrir la cathédrale qui va
formidable.
Séparer.
Et donc ce portail, au fond, nous le devons partiellement à l'épiscopat de Yves et de son successeur Geoffroy de Lèves. Ils ont tous les deux été évêques longtemps, puisque pratiquement ils ont couvert la première moitié du XIIe siècle.
Donc commençons par Yves de Chartres.
Commençons par Yves.
Présentons peut-être sa vie, son œuvre.
On a dit longtemps qu'il était originaire de Beauvais, enfin de l'Oise. Il semble, d'après les plus récents travaux des historiens, qu'il était peut-être tout bonnement originaire du pays chartrain. Enfin, en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'il avait de la parenté au pays chartrain. Donc, il est tout à fait possible qu'il soit originaire de chez nous. Ce qui n'empêche qu'il a été premier supérieur ou prieur, abbé, d'une communauté de chanoines réguliers à Beauvais. À abbé de ce monastère qu'il a été élu par les chanoines de Chartres, évêque de Chartres.
Parce que, rappelons-le, effectivement, à cette époque-là, les évêques accédaient au trône épiscopal par élection.
Ils étaient élus, non, théoriquement, disons encore, par la population du pays est en fait élu par les chanoines de la cathédrale. Mais c'était une élection qui, en ce qui concernait le diocèse de Chartres, était ensuite à la fois ratifiée, non pas spirituellement, mais temporellement par le roi, et confirmée par la papauté. Puisqu'on va peut-être en reparler d'ailleurs de la difficile accession de Yves à l'épiscopat.
Alors, on connaît Yves de Chartres surtout comme grand canoniste, revalorisant le sacrement du mariage.
Il a été un grand canoniste. Qu'est-ce que ça veut dire un canoniste? Au fond, un juriste, un spécialiste du droit de l'Église. Et Yves a consacré au droit canonique plusieurs ouvrages tout à fait importants, des recueils, puisque en droit, on se transmet au fond une jurisprudence ou une doctrine qui passe de génération en génération. Et donc c'est étant évêque de Chartres qu'il a publié à la fin du XIe siècle trois grands ouvrages. Que nous avons heureusement, enfin qui ont été heureusement conservés. Nous avons également de lui de très nombreuses lettres.
Est-ce qu'on les a gardées dans la bibliothèque?
298, on les a en divers manuscrits, au moins en France. Et on a des sentences. Les sentences étaient des réponses à des questions posées par les étudiants. Ça aussi, c'est quelque chose, je crois, de tout à fait intéressant, et qui ont été conservés à l'école de Laon. Donc, je crois qu'ils sont on a des recueils qui sont à la bibliothèque, enfin, l'ancienne bibliothèque de la cathédrale de Laon, oui, de l'école de Laon.
Est-ce que vous avez connaissance si ces sentences ont été publiées?
Je ne sais pas.
Tout n'a pas encore été édité. Il y a une richesse extraordinaire de manuscrits, de lettres.
Les lettres ont été publiées. On les a. C'est très intéressant de fréquenter un peu les. On en reparlera.
Vous voulez parler encore des œuvres d'Yves de Chartres, ou plutôt aussi de ses actions, puisqu'il a eu des démêlés avec le roi aussi.
Ce qu'on sait d'Yves, j'ai dit sur ses origines, on ne sait pas très bien. On sait qu'il a été étudiant et sans doute brillant à Paris, peut-être à l'abbaye du Bec-Helluin, où il aurait été condisciple de saint Anselme, qui sera archevêque de Canterbury et grand théologien, élève de Lanfranc. Mais pour les historiens actuels, ils disent le témoignage qui nous en est donné est tardif, donc on ne sait pas très bien. Mais il a eu des relations d'ailleurs avec saint Anselme.
On va faire une petite pause musicale avec Venance Fortuna.
Roma collensum sobris, paschali festum gaudis.
O Christus invictus Leo, traboris urgens obruto, du face viva persona, a morte fungos excita.
Devoraradim robus redam refunditatarus, captivitate libera, Iesus secundur agmina.
Triumphate splendide et dignus amplitudine,
ipsum canendo sublices regem recemur milites. sordine palazzi.
Venance Fortunate nous chante les splendeurs de Chartres. Nous sommes avec Monsieur l'abbé Ferré dans le studio et nous écoutons Monsieur l'abbé nous parler de Yves de Chartres, évêque de 1090 à 1015. Monsieur l'abbé, donc Yves a écrit de très importants ouvrages qui récapitulent le droit canonique, le droit de l'Église.
Et donc en 1090, il a été élu évêque de Chartres pour remplacer un évêque dont l'élection avait été annulée par Rome pour simonie.
Ah, rappelons peut-être à nos auditeurs.
À l'époque, la simonie était très répandue. Disons, l'usage d'acheter des élections par divers moyens de pression. Et donc son prénécesseur, un nommé Geoffroy Ier, qui a été évêque une douzaine d'années, finalement, le pape a annulé l'élection. Mais alors, quand Yves a été élu, l'archevêque de Sens, qui était notre métropolitain, a refusé de l'ordonner, enfin de consacrer, comme on disait à l'époque, sous prétexte que l'archevêque de Sens, Richer, n'était pas d'accord avec la déposition de son prédécesseur. Il dit donc.
Donc c'est un début difficile pour Yves.
Début difficile, mais Yves est allé à Rome pour dire au pape si je ne dois pas être avec, annule mon élection. Et non seulement le pape a validé l'élection, mais il a consacré lui-même Yves comme évêque de Chartres. Alors on a ça dans une lettre assez dure de Yves à son archevêque. Parce que l'archevêque dit « Oui, où es-tu allé à Rome pour te faire consacrer ?» Et Yves qui lui écrit « Mais non, je ne suis pas du tout allé à Rome pour me faire consacrer, je suis allé à Rome pour demander à l'évêque au pape d'annuler mon élection si je ne dois pas être évêque. » C'est passionnant de lire les lettres.
Donc on accordait, on voit à travers cette lettre, cette histoire, que l'élection par les chanoines ou par l'acclamation par le peuple était très importante et respectée par l'Église.
Oui, oui, et là tout à fait. Et puis le pape confirmait aussi la déposition de son prédécesseur, mais enfin l'annulation de l'élection.
Alors, est-ce qu'on peut voir au portail sud de la cathédrale de Chartres, puisque vous avez parlé de la simonie qui a eu pour conséquence l'annulation de l'élection de Geoffroy Ier, on voit sous la statue de l'apôtre Pierre, Simon le magicien avec une énorme bourse autour de son cou. Certes, c'est l'histoire qu'on connaît bien dans les actes des apôtres, mais est-ce qu'on ne peut pas y voir un rapport avec l'histoire de l'Église, justement, la simonie étant un grand mal dont souffrait
l'Église?
Ça,
c'est très possible. Si on parle de simonie, il s'agit... c'est une allusion, une évocation de Simon le magicien dont nous parlent les actes des apôtres et qui voulait acheter les pouvoirs...
Thaumaturge
des apôtres moyennant finance.
Voilà, donc
c'est quand ça, on paye, on a tout ce qu'on veut.
Déjà,
il y aurait beaucoup à dire de la simonie qui était d'une gangrène terrible dans l'Église au XIe et XIIe siècle. Grâce à Dieu, alors qu'elle était si répandue, c'est pour ça que les évêques de Chartres au XIIe me sont particulièrement chers. On n'a pas eu au XIIe siècle d'évêque simoniaque. Et puis Dieu sait que Yves a lutté de toutes ses forces. Faut dire aussi, Yves a été un des grands évêques réformateurs dans notre pays au XIIe siècle. La réforme dite grégorienne engagée par Grégoire VII, le pape, au siècle précédent. Et Yves a été un des grands évêques réformateurs. D'une part, le diocèse de Chartres était immense, considérable. Il allait de la rive droite de la Loire à la rive, de la rive gauche de la Loire à la rive droite de la Seine. J'allais me perdre les pieds dans
en étendue un très vaste diocèse.
Très vaste,
et difficile,
de Blois jusqu'à Mantes-la-Jolie. Et un des évêchés royaux, donc, qui faisait en fait de l'évêque de Chartres un des proches du roi de France, et il a été comme ses co-évêques, un conseiller écouté du roi, ce qui lui a pas manqué d'être en conflit aussi très très fort avec le roi de France, Philippe Ier.
À qui il reprochait de répudier sa femme.
Alors, la question du mariage ou du remariage du roi est une affaire très complexe, parce qu'il a épousé la troisième épouse du comte d'Anjou, mais troisième épouse, alors pour Yves, elle était même pas épouse, puisque à ses yeux, un des mariages antérieurs du comte d'Anjou était valide. Alors c'est assez compliqué, mais le conflit s'est ouvert quand le roi a invité les évêques à venir à son mariage. Et Yves a refusé d'y aller, et il a envoyé une lettre à ses pères, les évêques, en disant pourquoi il n'y allait pas, hein, ce qui a fait quand même un certain bruit. Et pendant des années, donc, on voit Yves donc très ferme sur les principes, hein, donc, refusant donc de considérer l'union comme autre chose qu'une cohabitation.
Que l'on peut dissoudre à tout moment.
Et en même temps, je crois, on voit Yves donc ferme sur les principes, mais très très charitable pour les personnes, très attentif aux personnes. D'ailleurs, il est dans ce conflit canonique, je dirais, avec le roi, il est resté en bon terme avec le roi.
Mais n'a-t-il pas fait de la prison ?
Mais oui. Il est resté en bon terme, mais pas toujours, puisqu'il y a cette affaire assez sinistre de l'emprisonnement, donc par la volonté du roi, au château du Puisé, le sire du Puisé, un triste sire, où il était pas très intéressant.
Heureusement, il n'est pas mort en prison, sinon on aurait eu un évêque martyr. On va faire une petite pause avec les splendeurs de Chartres et Venance Fortunate pour reprendre après. Donnons à nouveau la parole à Monsieur l'abbé Philippe Ferré qui nous parle de Yves de Chartres, grand évêque jusqu'en 1115. Et il va nous parler surtout de l'indépendance que Yves a su garder vis-à-vis du pouvoir royal.
Oui, le différend qu'il a eu à propos du mariage ou remariage du roi Philippe montre sa grande indépendance vis-à-vis du pouvoir royal. C'est quand même une force formidable. Il était si facile d'être soumis au roi, et non seulement politiquement, mais matériellement. Je disais, c'est un des évêchés royaux. Il y a eu notamment la question des investitures. Quand Yves a été élu évêque, il a reçu du roi une certaine investiture. Et Yves soulignera beaucoup que cette investiture concerne le pouvoir temporel et absolument pas le pouvoir spirituel. Et ça a été important de le préciser juridiquement, canoniquement. Et là, Yves a eu un grand rôle. Ce n'est pas le roi qui fait l'évêque.
Ça s'inscrit dans cette grande lutte entre l'Église, la papauté et le royaume de l'Empire, la querelle des investitures.
Oui, la querelle des investitures a été aux dimensions de l'Occident chrétien, enfin, disons de toute la chrétienté.
Une querelle de pouvoir.
Des querelles de pouvoir. Est-ce que le pape tient son pouvoir de l'empereur? Est-ce que l'évêque tient son pouvoir du roi? Pas du tout. Et ça, Yves est une pierre marquante dans le règlement de ce qui était une difficulté.
Longtemps après le Moyen-Âge, Napoléon tranchera à Stramagnard, il prendra la couronne, voilà. Il se la posera lui-même sur la tête.
Oui. Bon, on va rester au XIIe siècle.
On reste au XIIe siècle.
Mais ceci pour souligner que c'est une question vraiment très importante, très importante. Et qui n'allait pas de soi. Yves a été un évêque extrêmement actif dans son diocèse. Dans les 25 ans où il a été évêque, il s'est vraiment beaucoup préoccupé de son diocèse, notamment de la formation du clergé, qui avait grand besoin de formation. Et on est bien renseigné, au fond, sur son activité à travers ses lettres. C'est quelques 300 lettres si, si précieuses, et puis c'est passionnant à lire au fond. Il a attaché donc une grande importance à la formation des prêtres, une grande importance à la catéchèse et à la liturgie.
Comment est-ce que était organisée la formation des prêtres? Par le théologal de la cathédrale qui faisait des conférences, expliquait des sermons?
Oui, vous savez, et puis... Dans un vaste diocèse comme ça, bien des prêtres étaient loin, dans leur cambrousse.
C'était tout simplement un problème d'éloignement.
Comme ils faisaient. Comme disait il y a quelques 80 ans, je crois, un prêtre du diocèse au vicaire général qui lui reprochait de ne pas faire beaucoup d'études. Et le brave curé dit, Monseigneur, il faut bien croûter. Parce qu'il s'occupait de son jardin. Bon, il y avait un peu ça. Alors, début du recueil de ses sermons, nous lisons une déclaration qui pose le principe, je trouve, d'une pastorale liturgique qui est toujours d'actualité. Et Yves écrit, « Le peuple appelé à la foi doit être instruit au moyen de sacrements visibles, afin que la présentation des choses visibles lui permette de parvenir à l'intelligence des choses invisibles. » Moi, je trouve que ça, c'est une position de principe tout à fait forte. Et il continue. « C'est pourquoi les prêtres du Seigneur qui confèrent ces sacrements doivent connaître leur ordonnance et leur déroulement, ainsi que la vérité substantielle des réalités qu'il signifie. » Donc là, on a tout un programme, puis, connaissant un peu Yves de Chartres,
Il a dû faire
son
en sorte
tempérament,
que...
il a oui. dû faire en sorte que ça passe dans la pratique, et ça, c'est vraiment intéressant.
Il reprend ce thème très important dans l'histoire de l'art, que les images servent aussi de support visible pour toutes ces connaissances de l'invisible.
Dans tout ce que j'ai dit en ce moment, moi j'ai en arrière-fond notre portail royal, qu'il n'a pas connu, puisqu'il a été construit une 35 ans après sa mort, mais certainement qu'il va être pour beaucoup dans l'essor de l'école de Chartres, qui a été à son apogée au milieu du XIIe siècle, et donc pour beaucoup dans la réalisation de ce magnifique chef-d'œuvre qui nous est laissé.
Il l'a pas connu parce qu'il est mort en 1115, mais la tour nord a été construite en 1134, la deuxième quelques dix ans après.
L'issue de son propre épiscopat. Et ce qu'on sait, c'est qu'il s'est beaucoup intéressé à l'école de Chartres. Il a trouvé de quoi loger l'école. Et sans doute, parce que.
Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où pouvait se trouver
Je ne sais pas.
De toute façon, sans doute pas aucun des bâtiments visibles, puisque le sol est aujourd'hui beaucoup plus haut qu'à son époque. Oui.
Mais ce que l'on peut présumer, c'est qu'il a attiré à Chartres les maîtres réputés dont peut-être je pourrais dire un mot dans une prochaine émission à propos de son éminent successeur, Geoffroy de Lèves, qui a été aussi un grand évêque, qui a aussi été évêque un quart de siècle, et lui qui est à l'origine presque directe de notre portail royal.
En rêvant quand même un peu, il y a des historiens et archéologues qui pensent qu'il y a au portail royal quelques statues beaucoup plus anciennes que le reste et qui pourraient avoir été connues de Yves de Chartres.
Ça, c'est possible.
C'est très courant de reprendre après un remaniement des statues anciennes et de les insérer comme authenticité dans un nouvel ensemble. Je crois que le temps a passé beaucoup plus vite que prévu, mais nous avons pu dire l'essentiel, ou vous avez pu dire l'essentiel sur Yves de Chartres, ce grand évêque de 1090 à 1115, grand expert en droit canonique qui revalorise le sacrement du mariage, comme vous l'avez rappelé, qui garde son indépendance vis-à-vis du pouvoir royal et qui va faire en sorte que la réforme grégorienne puisse aussi être mise en œuvre ici dans ce très vaste diocèse de Chartres. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Philippe Ferré.
Ben merci. Merci aux auditeurs. J'étais heureux de pouvoir en parler.
Écoutons, revenons Fortunate et retrouvons-nous pour une autre émission sur Geoffroy de Lèves. Au revoir.